France Musique.
Le journal Olivier Denré. Bonjour Olivier.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. À l'issue d'un conseil de défense prévu demain, le gouvernement pourrait annoncer avant la fin de la semaine un nouveau tour de vis pour la vingtaine de départements sous haute surveillance sanitaire. L'hypothèse d'un confinement le week-end, comme à Nice et à Dunkerque, pourrait donc bien concerner d'autres métropoles. En revanche, c'est ce qu'indique Matignon, la fermeture des écoles n'est pas à l'ordre du jour. L'exécutif continue par ailleurs d'élargir sa stratégie vaccinale contre le Covid-19. Le ministre de la Santé a ainsi confirmé hier soir que le vaccin d'AstraZeneca pouvait désormais être administré aux 65-75 ans avec des risques de comorbidité. À ce jour, plus de 3 millions de personnes ont reçu une première injection, quelle que soit d'ailleurs la marque du produit autorisé en France. La plupart ont plus de 75 ans et les premiers effets commencent à se faire sentir sur les chiffres de l'épidémie, notamment dans les services de réanimation, comme en témoigne ce reportage de Solène Lehen à l'hôpital La Riboisière à Paris.
38, 42,
penché sur la liste des patients Covid dans son service de réanimation médicale, le professeur Mégarban calcule les âges de chacun.
5 qui ont moins de 50 ans.
5 patients de moins de 50 ans, soit 40% des malades. Ils sont plusieurs trentenaires.
Clairement, on a l'impression que c'est un peu plus jeune. Donc c'est une particularité qui est notée d'ailleurs dans l'ensemble des hôpitaux de l'assistance publique. Environ 25% des patients qui ont été hospitalisés dans les 10 derniers jours ont moins de 40 ans.
Il est vrai que les patients très âgés sont peu admis en réanimation car souvent trop affaiblis pour supporter les traitements lourds. Mais il n'existe pas de règle. Il y a d'ailleurs ici un patient de 80 ans. Moins de personnes âgées constatées donc depuis plusieurs jours en réanimation. C'est peut-être un effet vaccination.
Effectivement, les trois quarts des personnes de plus de 80 ans habitant dans les EHPAD, mais également une certaine proportion de personnes plus âgées sont vaccinés, donc protégés.
Le professeur Mégarban suppose aussi que depuis plusieurs semaines, les personnes âgées sont davantage vigilantes, s'isolent. Inversement, un relâchement des plus jeunes, les trentenaires, les cadras, pourrait expliquer leur arrivée plus massive dans les services de réanimation.
Le secrétaire général de la CFE-CGC demande ce matin au gouvernement d'abandonner sa réforme de l'assurance chômage. Il ne faut pas la faire, les conditions ne sont absolument pas réunies, dit Gérard Mardinet. La ministre du Travail reçoit aujourd'hui tous les partenaires sociaux pour leur présenter la copie finale de ce projet de loi. Tous les syndicats sont vent debout contre l'idée de diminuer les allocations chômage. Ils ne se sont plus parlé depuis le mois de septembre dernier, mais ce soir ils ont rendez-vous à 18h pour un entretien bilatéral en visioconférence. Emmanuel Macron et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan vont tenter de dépasser les profonds désaccords qui parasitent Bertrand Galichet les relations des deux pays qu'il préside.
Le ton change entre Paris et Ankara, loin des propos incendiaires du président turc à l'encontre d'Emmanuel Macron, qualifié l'an dernier de « problème pour la France ». Recep Tayyip Erdogan avait même mis en doute la santé mentale de son homologue, appelant le pays à se débarrasser de lui. Mais en janvier, Emmanuel Macron a reçu du président turc une lettre beaucoup plus aimable, d'où le rendez-vous d'aujourd'hui. Si la Turquie fait ainsi le premier pas vers la France, donc vers l'Europe, c'est faute de pouvoir compter désormais sur le soutien inconditionnel des États-Unis de Joe Biden. Recep Tayyip Erdogan, déjà confronté à une situation économique dégradée et à la grogne des étudiants turcs, cherche visiblement à améliorer son image à l'international. Avec Emmanuel Macron seront évoqués les sujets qui rapprochent, comme la coopération antiterroriste, mais aussi les politiques de la Turquie qui fâchent les Européens, l'exploitation des hydrocarbures en Méditerranée orientale ou l'implication militaire de la Turquie dans le conflit libyen.
L'autre conflit qui inquiète toujours la communauté internationale, c'est celui qui gangrène depuis des années maintenant le Yémen. Ces derniers temps, faute d'argent, des programmes humanitaires ont été réduits ou interrompus. L'ONU, Christian Chesneau, vient donc de lancer un appel aux dons dans un pays où la population manque de tout ou presque.
C'est une conférence en forme de SOS pour un pays en perdition. Dès l'ouverture, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a eu des mots qui en disent long sur le drame que vit le Yémen. J'implore tous les donateurs, a-t-il martelé, de répondre généreusement à notre appel afin d'empêcher la famine d'engloutir le pays. Chaque dollar compte, a ajouté le patron de l'ONU. La tragédie humanitaire, en effet, ne marque aucun répit. La moitié de la population risque d'être confrontée à la faim cette année, soit plus de 16 millions de personnes. 400 000 enfants de moins de 5 ans pourraient mourir de malnutrition aiguë s'il n'y a pas de mobilisation humanitaire internationale rapide. Mais le Yémen ne semble pas intéresser les grandes puissances, même si les États-Unis cherchent à relancer le dialogue politique. Mais on est loin d'un cessez-le-feu. Les rebelles houthis ont lancé depuis début février une vaste offensive pour prendre la ville de Marib, située à une centaine de kilomètres de Sanaa, une région riche en pétrole. Les combats sont acharnés avec les forces loyalistes soutenues par l'Arabie saoudite voisine. Riyad s'est engagé à décaisser 430 millions de dollars lors de la conférence des donateurs de l'ONU et cherche désormais à sortir du bourbier yéménite, sauf que les attaques de drones et de missiles des rebelles ne faiblissent pas.
Des grenades assourdissantes pour disperser la foule en Birmanie. Les manifestants continuent de défier ce matin les militaires qui ont pris le pouvoir il y a maintenant un mois. Les ministres des Affaires étrangères des pays d'Asie du Sud-Est doivent, eux, échanger aujourd'hui avec les putschistes dans l'espoir de stopper la répression. Un ciel voilé sur la façade atlantique, des nuages également sur les Pyrénées, sur le reste du pays. La journée sera bien ensoleillée. Les températures, elles iront cet après-midi de 13 à 19 degrés, Jean-Baptiste Urbain.
C'était le journal d'Olivier Denré. L'information revient à 13h sur France Musique. Et vous, demain, 7h. Bonne journée.
À demain, bonne journée.
À réécouter sur francemusique.fr.